Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons recevoir Jacqueline Lefort pour son dernier roman, La Terre des Clèdes, qui se déroule en Ardèche. On va la retrouver pour parler avec elle de ce roman, Jacqueline Lefort, La Terre des Clèdes. On la retrouve dans quelques secondes.
A burly wine, just a jackknife, as Mac he did.
Puis petite fille de mineur et fille d'armurier. Et puis là, je me suis plus intéressée à l'Ardèche. Voilà, justement parce que ma mère et ma grand-mère étaient ardéchoises. Donc j'ai ancré mon roman en Ardèche, mais plutôt la partie sud de l'Ardèche. Moi, je suis plutôt originaire du nord. Mais je suis descendue un peu plus vers le sud, hein, aux confins de la Lozère, dans une région où les châtaigneraies étaient très nombreuses. Il y en avait beaucoup. Donc j'ai créé ce personnage de Marguerite qui se retrouve à l'âge de 20 ans, donc à la tête d'une exploitation familiale, dont elle n'était pas censée à l'origine prendre la direction, puisque c'était son frère qui avait été élevé justement pour prendre la succession du père. Mais il se trouve que le frère disparaît, meurt tragiquement en même temps que son père, donc elle se retrouve toute seule. Et elle surmonte très vite son abattement et elle décide vaille que vaille d'essayer de reprendre l'exploitation avec ses propres moyens, sachant que on est au milieu du 19e siècle, à une époque où les femmes n'ont pas du tout vocation à devenir chef d'entreprise. Hein, on sait très bien qu'à l'époque on est encore sous le code de Napoléon de 1804, à savoir que les femmes sont, une fois qu'elles ont quitté les jupons des parents, se retrouvent mariées et n'ont d'autre vocation que de s'occuper de la maison et d'avoir des enfants. Donc elle se retrouve à la tête d'une exploitation, donc à une époque qui n'est pas favorable à ce genre d'entreprise pour une femme. Elle va tenter aussi pendant quelque temps de se débrouiller seule parce que le fiancé, celui qu'elle comptait épouser, finalement s'est intéressé à une autre femme qu'il a épousée entre-temps. Donc elle se retrouve vraiment seule. Le seul soutien qu'elle peut avoir, c'est celui qu'elle retrouve auprès des quelques employés de son père. Jusqu'au jour où donc elle va rencontrer un homme qui va lui faire peut-être miroiter que tout n'est pas perdu, qu'elle a peut-être elle aussi droit au bonheur. Mais c'est vrai que cette période, ça va s'avérer un miroir aux alouettes, parce que ce n'est pas tout à fait l'homme idéal qu'elle avait espéré. Donc voilà, moi, dans mes romans, ce que je mets toujours des héroïnes en vedette, ce sont toujours des femmes, des femmes qui sont à une époque où elles n'avaient pas la partie belle. On n'essayait pas de les aider justement pour qu'elles puissent s'en sortir toutes seules. Il fallait qu'elles aient la volonté, qu'elles aient l'ambition, qu'elles aient le courage de venir au bout de leurs idées pour arriver à s'en sortir. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce roman.
Alors, c'est vrai que, bon, on dit, hein, il y a un dicton qui dit « Ardéchois au cœur fidèle », hein, donc voilà, c'est peut-être ce qui a amené cette jeune femme à se battre, parce que oui, comme vous disiez, hein, on est dans les années, là, début 1900, où finalement, les femmes, c'était très compliqué pour elles. Hein, être chef d'entreprise ou chef de quoi que ce soit, c'était vraiment, il fallait une volonté énorme. Alors elle a essayé, alors elle rencontre cet Horace Peut-être qu'elle ne s'est pas très méfiée, comme elle était toute seule. Elle a dit, tiens, c'est peut-être, pourquoi
Elle
pas,
s'est,
le
voilà, elle
destin.
s'est laissée, voilà, tout à fait. Elle s'est laissée berner par ses paroles et puis par son charme, bien entendu. Et puis, elle a peut-être trouvé inconsciemment peut-être le soutien qu'elle espérait, l'homme qui allait l'aider justement, non pas parce qu'elle n'a pas, quand elle l'épouse, elle n'a pas l'intention de lui donner les rênes de l'entreprise. Elle pense qu'il a des idées qui vont dans le même sens que les siennes, à savoir qu'une femme, après tout, peut très bien travailler, avoir et vivre, non pas comme un homme, mais enfin pratiquer une activité qui, jusqu'à présent, était plutôt dévolue à un homme. Donc il a des idées libérales sur la question, il a l'air d'être très ouvert au progrès. Et, donc elle sait qu'elle va pouvoir, qu'il va venir là, qu'il sera un soutien pour elle, pour mener à bien donc l'exploitation, sans pour autant la priver de ce patrimoine auquel elle tient, parce que c'est surtout ça son idée. Elle ne veut pas que le patrimoine dont elle a hérité soit dilapidé. Ou soit perdu, ou soit vendu à d'autres, à des prédateurs, parce qu'elle sait très bien que son entreprise est florissante et qu'il y en a qui n'ont qu'une envie, c'est qu'elle vende pour pouvoir se l'approprier. Et ça, elle n'a pas envie, parce que il y a deux choses, c'est parce qu'elle veut garder ce patrimoine dont elle a hérité et surtout, elle veut le transmettre aux enfants qu'elle va avoir. Et elle va avoir deux fils qui malheureusement ne vont pas, eux non plus, vont vraiment la décevoir. Donc voilà, donc elle est vraiment toute seule pour porter le flambeau en fait.
Oui, alors, par contre, j'aurais peut-être dû commencer par là, parce qu'Aura, c'est une rencontre fortuite, ou alors on va comprendre qu'ils se sont connus comment, parce que est-ce que lui, ses idées derrière la tête, c'était qu'il connaissait ces terres des Clèdes et qu'il avait envie d'y mettre la main dessus, quoi.
Non, en fait, c'est plutôt un bienheureux hasard. Un bienheureux hasard, parce que dans le roman aussi, on va découvrir que ce cher monsieur n'a pas un passé très glorieux et que cette exploitation qu'on lui offre presque sur un plateau, cette exploitation peut devenir un refuge tranquille pour se faire oublier pendant quelque temps. Donc, en fait, ça tombait plutôt bien. Sans vouloir vraiment la chercher, ça a été un hasard bienheureux et trouver une exploitation dirigée par une femme seule qui ne demandait finalement qu'à lui tomber dans les bras, c'était un déni pour lui. Donc, voilà.
Oui, alors bien sûr, on va comprendre elle va être dans une déception quand elle va comprendre que cet Horace n'est pas aussi bien qu'il le dit. Il y a grosse déception, c'est une trahison, mais elle va pas baisser les bras quand même, hein.
Non, elle va pas baisser les bras parce que donc elle a eu deux fils sur lesquels pendant longtemps elle va fonder ses espoirs. Alors bon, ils n'ont pas tous les deux complètement ratés, hein. S'il y en a un qui ressemble étrangement à son père, le deuxième est un peu correspond un peu plus au fils qu'elle voulait avoir, sachant que malheureusement la châtaigne, c'est pas un domaine qui l'intéresse. Lui, il va se découvrir très tôt une vocation de médecin et une vocation qui va finir de s'ancrer en lui lorsque il va partir pour la guerre de 70. Et là, il va vraiment découvrir que son avenir à lui, ce n'est pas la châtaigneraie. C'est la médecine. Donc, voilà. Donc, en fait, l'exploitation va rester entre les mains de la mère, qui ne peut pas la transmettre à son fils.
Ou alors pour elle, en fait, c'est une double déception, hein, parce qu'elle comptait sur ses fils. Et bon, ça ne marche pas. Bon, ça fait partie de la vie, hein. Parfois, dans d'autres entreprises, on sait que le père serait content que ce soit les enfants qui prennent la suite, mais ça ne se passe pas toujours comme on veut. Et puis, il y a cet Horace-là en qui elle mettait beaucoup d'espoir, quoi, qui finalement va également la trahir. Alors, ça fait beaucoup pour une seule femme, hein.
Ça fait beaucoup pour une seule femme. C'est ce qui fait qu'en fait, la seule chose à laquelle elle se raccroche, c'est son héritage, son patrimoine. Et ça devient, sa raison d'être, sa raison d'avancer, sa raison de ne pas baisser les bras.
Oui, mais enfin, entre vouloir et pouvoir le faire, il y a quand même un monde, hein. Surtout que oui, finalement, Horace ne va pas du tout l'aider, hein.
Non, il ne va pas du tout l'aider. Par chance, elle est quand même bien entourée, on va dire, parce qu'elle a quelques employés, dont certains étaient des employés de son père. Donc, ils l'ont connue depuis toute petite, donc avec lesquels elle se sent en totale confiance. Donc, voilà, elle a quand même un certain socle sur lequel elle peut s'appuyer. Elle n'est quand même pas désespérément seule. Et c'est vrai que elle a une vie privée qui ne va pas venir qui ne va pas venir pour lui faciliter les choses.
Et alors, est-ce que ses employés n'ont pas vu venir là Horace, donc ils n'ont pas senti qu'il y avait quelque chose de pas net?
Il y en a un surtout qui tient fonction de contremaître, qui a grandi dans l'exploitation depuis toujours, qui est un peu son parrain ou son mentor. C'est celui qui ne va pas la lâcher à partir du moment où elle perd son père et son frère, où elle se retrouve vraiment orpheline. Voilà, il va être là. Il va être là pour la soutenir, il va être là pour l'épauler, il va essayer de lui faire prendre confiance en elle et lui dire que bien, bon, ben, tous les deux, ils peuvent arriver à faire quelque chose, ils peuvent arriver à garder son héritage. Donc voilà, et puis il la connaît bien, il la connaît par cœur, il connaît tout, c'est vraiment c'est son pilier, quoi. Il ne va pas être éternel. Voilà, donc il ne faut pas trop en dire non plus.
Non, bah bien sûr, hein, puisqu'il faut dévoiler tout doucement. Donc aujourd'hui, on est avec Jacqueline Lefort qui nous parle de la Terre des Clèdes, l'histoire d'une femme dans le début des années 1900 qui se retrouve à la tête d'une entreprise, enfin, de terre, hein, oui, une châtaigneraie, en Ardèche, et qui finalement, elle qui voulait, qui arrivait à développer cette châtaigneraie, mais malheureusement, elle tombe, on peut le dire, sur la personne qu'il ne fallait pas.
Oui, elle a une vie, comme on dit, jalonnée d'embûches, qui ne sont pas de petites embûches, en fait. Donc, mais voilà. Alors, je pense qu'il y a peut-être eu des femmes à cette époque qui ont réussi à s'en sortir, qui ont réussi à se faire entendre, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque elles n'étaient pas nombreuses, et puis surtout c'était pas encore ancré dans les états d'esprit, bon, de la part des hommes certainement pas, parce que les hommes, bon, étaient pour eux, une femme qui voulait travailler, c'était quelque chose de complètement aberrant, mais peu de femmes aussi avaient l'idée de se lancer elles-mêmes dans les affaires. C'était pas leur vocation. Elle recevait une éducation très stricte, une éducation qui les soumettait au mari, au bon vouloir du mari, qui les privait de elle n'avait aucune liberté, elle n'avait aucune marge de manœuvre, la loi n'était pas du tout pour elle, elles étaient vraiment la société les considérait comme des êtres inférieurs. Et dans ces conditions, c'est très difficile d'essayer de s'en sortir, c'est vrai.
Et alors, bon, on va pas dévoiler, mais je dirais que Horace, elle va se rendre compte assez rapidement que finalement, on ne peut pas dire que c'est un arriviste, peut-être, mais pas loin, non?
Ah, c'est pas loin. C'est un opportuniste, on va dire.
Ouais, opportuniste.
C'est
plutôt,
un opportuniste.
Oui.
Voilà. Il a su profiter d'une situation qu'il n'espérait peut-être même pas, d'ailleurs, et une situation qui lui a vraiment permis de se mettre au vert pendant quelque temps, de se faire oublier ce dont il avait besoin. Mais pour lui, sauvegarder le patrimoine de sa femme, c'était pas du tout dans son objectif. Et il aurait certainement préféré tout vendre très, très rapidement. D'ailleurs, il ne va pas se priver de faire quelques coups bas par derrière qui vont l'obliger, qui vont en fait la mettre elle aussi en danger, parce qu'elle va être obligée de venir à son secours et de grignoter un petit peu de son capital.
Oui, alors, et est-ce qu'elle elle va savoir son passé, elle va arriver à savoir pourquoi il est là, pour se faire oublier parce qu'il a fait des choses pas bien,
oui.
Quoi, voilà.
Tout à fait, tout à fait. Elle va découvrir, bon, on ne va pas dire comment,
non,
mais
non.
Elle va parvenir à découvrir, qui était ce monsieur. Les raisons qui ont fait que qui prétendait être quelqu'un très très en vue dans la bonne société, un jour se retrouve à vivoter dans une au fin fond de la campagne. Elle va quand même comprendre que c'est pas pour rien et que son exploitation est vraiment devenue pour lui un refuge pour sa survie.
Oui, c'est un refuge double en fait. Bon, il se fait oublier et en plus il a compris qu'il pouvait en retirer un petit peu d'argent.
Qu'il pouvait en retirer exactement,
ouais.
Exactement.
Et donc,
d'autant que
ça complique.
Les lois à l'époque étaient faites de telle manière que ce qui appartenait à la femme appartenait au mari, mais ce qui appartenait au mari n'appartenait pas forcément à la femme. Donc, c'était une situation pour lui qui pouvait s'avérer très, très intéressante. Pour un peu qu'on connaisse un petit peu des lois.
Oui, mais alors,
on
est au début des années 1900, donc il n'y a pas de contrat de séparation de biens, là, hein, parce que...
L'homme pouvait divorcer, oui, mais la femme n'avait pas le droit. La femme ne pouvait pas travailler sans le consentement express de son mari, si encore il y consentait. Et ça allait très loin, ça allait même si loin que, par exemple, dans mon roman, je raconte que Marguerite, pour travailler dans son exploitation de châtaigne, porte des vieux vêtements de son frère, elle porte des pantalons. Et à l'époque, pour qu'une femme avait le droit de porter un pantalon, elle devait en faire la demande officiellement, parce que c'était interdit pour les femmes. C'est-à-dire, il y avait quelques rares exceptions pour une femme qui était cavalière. Bon, il y avait quelques rares exceptions qui permettaient qu'une femme porte un pantalon. Sinon, c'était strictement interdit par la loi. Donc, ça allait quand même très loin.
Oui, et puis, alors elle risquait de tout perdre, là. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Elle risquait vraiment, elle qui avait un peu remonté cette exploitation, on va dire, hein, quand même. Elle s'était bien débrouillée avec l'appui des ouvriers de son père. Et là, du jour au lendemain, elle tombe, on peut dire, sur un voyou un peu, hein, quand même. Et elle risque de tout perdre, quoi.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai qu'elle elle risquait vraiment de tout perdre. Mais bon, il va y avoir des retournements de situation qui font que elle va s'en sortir plutôt bien et que tout finira par s'arranger. C'est le principe du roman en général. On fait en sorte que ça finisse bien.
Ben oui, c'est aussi bien. Hein. Des fois, ben, ça finit pas bien, mais des fois, ça peut finir bien. Mais on a compris que c'était une femme de caractère, hein, quand même.
C'est une femme de caractère, tout à fait. C'est une femme de caractère, une femme animée par la volonté de préserver son héritage. Une femme qui bravait les interdits de son époque, les préjugés surtout, et qui était bien décidée à mener son combat jusqu'au bout, ce qu'elle va faire.
Oui, bien sûr, parce qu'en plus, venant de son mari, les coups bas, c'est quand même pas, c'est pas du tout réglo. Hein. Et elle, ça lui complique d'autant plus la tâche. Hein. Ça viendrait d'un étranger, bon, c'est pas mieux, mais ça pourrait se comprendre. Mais là, son mari qui lui joue des coups par-dessous, c'est pas très très bien, hein, quand même.
Ah oui, et ça c'était parce qu'il fallait donner du relief au roman. Ça se passait peut-être pas toujours comme ça dans la réalité, mais voilà, là il fallait. Je voulais surtout montrer que cette femme, du jour où elle a pris en main son héritage, elle a eu, ça a été sa volonté. Sa volonté primaire en quoi, en fait. Elle n'avait qu'une envie, c'était de le préserver, parce que ça lui venait de son père, c'était tout ce qui lui restait. Et pour elle, c'était impensable de le perdre, de le voir dilapider, de le voir gaspiller. Cette exploitation allait devenir aussi importante que sa vie propre, en fait.
Oui, enfin,
elle,
oui,
elle a reculé devant rien pour la garder.
Oui, c'est une affaire familiale. Bon, il y avait une histoire de cœur aussi, hein, bien sûr, par rapport à son père qui avait monté cette châtaigneraie, qui marchait bien d'ailleurs, hein, et elle a voulu continuer. Mais malheureusement, on lui a mis pas mal de bâtons dans les roues. Mais vu qu'elle voulait arriver à ses fins, ben, finalement, on va voir que dans le roman, elle va y arriver. Après, bien sûr, diverses péripéties. Hein.
Ah oui, oui, tout à fait. Mais il faut pas trop en dévoiler. Quand
ah, ben, il faut pas trop en dire, bien sûr. Non, non. La Terre des Quêtes, donc Jacqueline Lefort, aux éditions Maupassant. C'est vrai que ça permet aussi peut-être de faire comprendre, c'est peut-être ce que vous avez voulu faire aussi, qu'à cette époque, la vie pour les femmes n'était pas toute rose. Hein.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et qu'il a fallu attendre encore très longtemps, parce que là, on est au milieu du 19e siècle, parce que le roman s'étend sur 20 ans, ça va de 1850 jusqu'après la guerre de 70, donc ça fait sur une vingtaine d'années. Mais c'était une époque où les lois ne bougeaient pas pour les femmes. Rien n'avançait, rien ne changeait. Et il faudra attendre encore longtemps après cette époque pour que les choses commencent à bouger et qu'il y ait certaines choses qui permettent à des femmes de pouvoir enfin se prendre un peu en charge, parce que c'est surtout ça le problème. Elles avaient, les lois étaient faites de telle manière qu'elles n'avaient aucune marge de manœuvre, qu'elles ne pouvaient qu'obéir, se soumettre à la volonté du mari.
Oui, alors voilà. Bien sûr, c'est même pas si vieux que ça, on dira, hein, parce que je ne me rappelle plus exactement, mais le droit de vote pour les femmes, on ne peut
1944.
Pas dire...
1944.
Voilà, c'est ce qui me semblait, hein, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est pas si vieux que ça.
Oui, tout à fait.
Donc, et là, oui. Elles n'avaient déjà pas le droit de vote, alors c'était quand même incroyable, hein, parce qu'à cette époque, il n'y avait que les hommes qui pouvaient voter. Là déjà, ça a été une avancée un petit peu pour les femmes, hein.
Oui, et puis ce qu'il y a surtout aussi, c'est que quelques temps après mon roman, là, à partir des années 1882, il y a eu les lois Jules Ferry qui ont permis l'accès à l'éducation. Ce qui fait que jusqu'à présent, parce que les femmes, certaines femmes allaient à l'école, certaines femmes savaient lire et écrire, mais pas toutes. Tandis qu'à partir de 1882, à partir des lois Jules Ferry, l'école est devenue obligatoire et l'école a été ouverte. Ce qui fait que là, déjà, ça a été une grosse avancée. Parce qu'à partir du moment où elles avaient accès à la connaissance, ça changeait beaucoup de choses. Ça changeait beaucoup de choses. Elles pouvaient prétendre à aller à l'école, à passer des diplômes, même si c'était ça, c'était encore quelque chose de pas simple. Hein. La première femme qui a été, qui a décroché un diplôme d'avocate, c'était en 1901, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'était pas encore tout de suite. Mais bon, déjà, à partir du moment où l'école a été ouverte, ça a été déjà un grand pas en avant.
Oui, et puis surtout obligatoire, hein, parce que là, on ne pouvait pas dire ben, « je ne mets pas ma fille à l'école » ou ci ou ça. Là, c'était obligatoire, donc c'est vrai que c'était la première ouverture, on dira, pour les femmes, quoi.
Exactement, exactement.
Oui, parce en ayant une certaine éducation, ben après, elles pouvaient se mesurer aux hommes, hein, parce qu'elles étaient... Il y en a qui étaient sûrement beaucoup plus doués que des hommes qui avaient fait des études, mais il y en a qui ont été plus loin. Et là, ben, elles pouvaient déjà ne pas se laisser faire, parce qu'elles commençaient à connaître un petit peu les lois aussi, hein, je pense.
Oui, bien sûr. Ben, à partir du moment où elle savait lire, elle avait accès à la connaissance. Donc, ça change. Après, ça change beaucoup de choses. Ça changeait beaucoup de choses. Donc, voilà.
Alors, notre Marguerite, hein, ben, faudra lire La Terre des Clèdes pour savoir comment ça va se terminer, plutôt bien. Et on verra que c'est une femme ben, qui avait, je dirais, un objectif. Et finalement, qui est arrivé malgré tous les aléas de la vie, parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein.
Non, pas du tout. Elle avait un objectif, et son objectif, elle l'a mené jusqu'au bout. Elle s'en est pas détournée. Et finalement, en général, son ambition et sa volonté d'aboutir seront finalement payantes.
Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes avec Jacqueline Lefort qui nous parle de son dernier roman, La Terre des Clèdes, aux éditions Maupassant. Oui. Alors Jacqueline, j'ai toujours la même question quand je termine, bien sûr, à tous les auteurs. Moi, j'aime pas dire autrice, hein, à tous les auteurs. J'ai vraisemblablement, je pense que vous en avez au moins un, voire deux sous le coude, non ?
Deux, non, pas encore deux, mais je suis en train de travailler sur le prochain, en effet. Je suis dessus, donc il n'est pas encore très, 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 très avancé, mais ça y est, il commence tout doucement à sortir de terre, et j'espère pouvoir le présenter l'année prochaine.
Et alors, vous allez changer totalement de sujet.
Ah,
mais vous restez avec les femmes ou pas ?
Pardon ?
Vous allez rester avec les femmes ou pas ?
Ah, ben, vous savez, si vous regardez un petit peu ma bibliographie, vous apercevrez que tous mes héros, pratiquement, sont des héroïnes.
Oui, c'est
donc,
vrai.
C'est mon cheval de bataille à moi, c'est montrer que dans ces époques, il y avait des femmes qui avaient la volonté d'aboutir. Donc c'est vrai que là, le prochain roman mettra, alors non pas deux, non pas une, mais deux femmes qui vont... Voilà, deux femmes de caractère aussi qui, à une époque où les choses n'étaient pas encore non plus très, très faciles.
On va changer d'époque quand même, voilà. On va aller plus dans le... On va se rapprocher des années 2000.
Oh, vous êtes... on est un petit peu plus proche de l'époque actuelle, oui, mais pas beaucoup.
D'accord, non, c'est juste voilà. Comme ça. Hein, c'est
puis, pour... Je ne veux pas en dire plus parce qu'après, ça porte malheur.
D'accord, non, je ne veux pas vous porter malheur, surtout pas. Ben, je vais vous remercier d'avoir été avec nous. Vous avez des premières réactions sur ce livre ? Il se vend bien ?
Ben, écoutez, il est sorti au mois de mars. Oui, j'ai eu quelques retours apparemment qui ont l'air de plaire, notamment de mes chroniqueuses habituelles. Et sinon, j'attends doucement. C'est vrai que j'attends toujours les 6 premiers mois pour voir un petit peu ce que ça donne, quels sont les retours. Mais j'espère qu'il plaira. Et puis, mais de toute façon, ça ne m'empêchera pas de continuer à écrire de toute façon.
Alors juste pour terminer, je vous embête pas plus longtemps. On va rester en Ardèche ou on va aller ailleurs?
Pas de souci.
On va rester en Ardèche ou on va
non,
aller ailleurs?
Non, c'est pas l'Ardèche.
D'accord, voilà.
C'est pas l'Ardèche, voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Merci, Jacqueline, et bonne fin de journée.
Merci beaucoup.
Au revoir. Et on attend avec impatience votre prochain roman, bien sûr.
Au revoir. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, on va donc terminer cette émission. On était avec Jacqueline Lefort hein, qui nous expliquait qu'elle a fait une grande partie de sa carrière, même toute sa carrière à Paris, et qu'elle a voulu revenir eh bien, près de son, je dirais pas de son Ardèche natale, mais elle avait beaucoup d'attaches avec l'Ardèche et elle est revenue s'installer au Chambon-Soignant après avoir fait ses études à Saint-Étienne. Voilà, elle nous sort ce roman. La Terre des Clèdes, où l'héroïne s'appelle Marguerite Valadier, qui va vivre des moments difficiles, mais qui à la fin s'en sortira et pourra sauver donc cette châtaigneraie aux confins des montagnes ardéchoises qui lui tenait tant à cœur. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. I see my bags drooping down. Yeah.
Ardèche, mon pays, mon soleil. Ma montagne, mon village de cocagne, accroché aux collines. Des sentiers qui grimpent vers tous les bouts du monde tournent tellement en rond qu'on n'en voit plus la fin. Tu es l'été, tu es le vent, frais comme l'automne, froid comme l'hiver. Ardèche, mon pays, mon soleil, ma montagne, mon Ardèche, mon pays, mon soleil, ma montagne. D'une étable, des plateaux, mes aïeux endurcis. Partir dans les vallées pour manger à leur faim. De mazets à moutons, ils firent leur maison. De terres inaccessibles, ils ont fait leur royaume. Chaud comme l'été, fort comme le vent, doux comme l'automne, rude comme l'hiver. Mon Ardèche, mon pays, mon soleil, ma montagne. Mon Ardèche, mon pays, mon soleil, ma montagne. Les ruelles étroites s'échappent toujours l'accent d'éveiller aux châtaignes sur les chaises de paille. Ardèche, belle dame, toi qui m'as mis au monde, à tes enfants tu donnes ton esprit et ton cœur. Chaud comme l'été, fort comme le vent, doux comme l'automne, rude comme. comme l'hiver. Mon Ardèche, mon pays, mon soleil, ma montagne. Mon Ardèche, mon pays, mon soleil, ma montagne. Mon Ardèche, mon pays, mon soleil, ma montagne.
Voilà, et oui, mon Ardèche, et on va terminer cet invité du jeudi, puisqu'on a parlé de châtaignier, avec quelqu'un qui a fini sa vie en Ardèche. Bien sûr, il s'agit de Jean Ferrat. Jean Ferrat à Entraigues, et qui va nous interpréter tout de suite le châtaignier.
J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier, chanter mon châtaignier. Bien à l'abri dans ma soupente, moi j'entends chanter la charpente, ce n'est pas du bois vermoulu. J'entends les poutres qui se plaignent de ne plus donner de châtaigne en supportant mon toit pointu. J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier chanter mon châtaignier. Quand on devient poutre maîtresse, c'est tout le toit qui vous oppresse, il faut chanter tout doucement. La chanson de ses origines, celle qu'il me chante en sourdine, en y mettant du sentiment. J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier, chanter mon châtaignier. C'est surprenant, mais c'est logique, il chante la chanson magique qu'il a apprise au fond des bois. Il me chante une chanson tendre que je suis le seul à comprendre quand la nuit vient à petits pas. J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier chanter mon châtaignier. C'est vrai pourtant qu'il nous protège contre le froid, contre la neige, tout en berçant mes insomnies. Ce n'est pas une chanson triste, mon châtaignier est un artiste qui continue d'aimer la vie. J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier chanter mon châtaignier.
Quelle plus belle chanson que Jean Ferrat pour terminer cet entretien avec Jacqueline Lefort et La Terre des Clèdes, et où on parle beaucoup, bien sûr, de châtaigne. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Notre invité de jeudi aujourd'hui était Jacqueline Lefort. pour son dernier roman, La Terre des Clèdes.